Et pour ce journal et pour commencer ce premier journal de la semaine, dans la lutte contre le Covid-19, les laboratoires d'analyse sont sous haute tension, Natacha.
Et vous l'avez sûrement vu ces deux dernières semaines, hein, et pas seulement si vous vivez à Paris, des files d'attente interminables devant les laboratoires d'analyse et de dépistage. Les demandes de tests ont explosé. Chaque semaine, 1 million de Français sont testés. Mais problème, les capacités des laboratoires sont limitées et comme rien n'a été prévu pour faire face à cette forte demande, ils saturent. Ces derniers jours à Paris, pour obtenir ces résultats d'analyse, les délais s'allongent et dépassent les 72 heures. Cela risque de compromettre toute la stratégie de traçage des cas contacts et de leur isolement et de rendre cette campagne de dépistage contre-productive. Catherine Hill est épidémiologiste et ancienne chercheuse à l'Institut cancérologie Gustave Roussy. Selon elle, l'essentiel de la diffusion du virus nous échappe complètement.
Il y a des études qui montrent que, en gros, la plupart des gens sont symptomatiques en moyenne au bout de 5 jours, et 5 jours après les symptômes, il y en a plus beaucoup qui sont contagieux. Donc, si on attend que quelqu'un ait un symptôme, ensuite il va voir le médecin le lendemain du premier symptôme, il va se faire tester le surlendemain, et ensuite on lui donne un résultat au bout de 3 jours, en fait on lui dit qu'il est contagieux au moment où il n'est plus contagieux. Donc ce test est inutile. Et de toute façon, on ne détecte environ, en ce moment je pense, on détecte 1 cas sur 5. Donc c'est complètement à côté de la question. On n'est pas du tout en train de contrôler l'épidémie, qu'on n'a d'ailleurs jamais cherché à contrôler. Parce que le virus circule très largement à travers des cas qu'on ne connaît pas. Ben, ce n'est pas un dépistage massif, c'est un dépistage passoire. Et en plus, on donne des résultats si tard, qu'ils sont beaucoup des résultats arrivent si tard qu'ils sont totalement inutiles. Donc ce qu'on fait là, c'est un gaspillage épouvantable. C'est de la communication politique, mais d'un point de vue de santé publique, c'est une catastrophe. Ben, déjà, il faudrait commencer à se demander si on n'a pas mieux que le test PCR avec un écouvillon dans le nez. Ensuite, on peut faire des tests groupés, c'est une des solutions qui est adoptée dans un certain nombre de pays. Pour accélérer les tests PCR, on prélève 20 personnes, on divise chaque prélèvement en 2 parties, on garde la moitié, et l'autre moitié, on mélange les prélèvements des 20 personnes dans un seul tube. S'il n'y a pas de virus dans ce tube, c'est que ces 20 personnes sont présumées négatives. Donc ça coûte beaucoup moins cher, on peut tester 20 fois plus de gens. Mais si on a 1% positif, on a besoin de 25 tests pour 100 personnes. Pour faire du dépistage, c'est très très efficace.
Voilà, et j'en profite pour vous dire que bien, nous reprendrons à partir de ce vendredi et toutes les semaines une radiographie du coronavirus dans une nouvelle forme. Ce sera dans la matinale de Guillaume Erner, certainement aux alentours de 7h15. Mais je vous en dis plus et bien, d'ici vendredi et d'ici la fin de la semaine. Et tout de suite, on va passer au bref. Dans la revue Science, les astronomes ont découvert un étrange système à 3 étoiles.
Une équipe internationale a observé grâce au Very Large Telescope au Chili, GW Orionis, situé dans la constellation d'Orion à environ 1300 années-lumière de nous. 2 étoiles intérieures tournent en orbite l'une autour de l'autre, tandis que la troisième gravite autour du duo. Dans le cas de ce triple système, le disque protoplanétaire est scindé en 3 anneaux inclinés. De plus, les 3 étoiles ne gravitent pas sur le même plan et sont mal alignées les unes par rapport aux autres et par rapport au disque. Ce désalignement est mal compris. Peut-être que la déchirure de ce disque serait liée à la présence d'une planète entre ces anneaux. Une planète qui graviterait autour de 3 étoiles, cela laisse rêveur.
La NASA a calculé une trajectoire plus rapide pour se rendre vers la Lune et la breveter.
Oui, un brevet comme pour toute propriété intellectuelle. Issue de ses modélisations numériques, l'agence américaine a breveté cette trajectoire plus efficace et plus économique. Une sorte d'autoroute vers la Lune qui permet de rejoindre une orbite géosynchrone et de faire le reste du chemin avec moins de carburant et moins de propulseurs. Officiellement, ces brevets empêchent aussi la mainmise d'entreprises privées et leur exploitation commerciale à des sommes exorbitantes. Ce nouvel axe, prévu pour de petits satellites, sera emprunté par Dapper, un engin compact de la NASA qui a pour mission l'étude des âges sombres de l'univers.
Et enfin, selon une prépublication apparaître dans The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, le projet Breakthrough Listen pourrait s'étendre à plus d'astres que prévu.
Et pour la recherche de signaux extraterrestres, c'est l'un des projets les plus aboutis. Le Breakthrough Listen traque des technosignatures et cherche dans notre galaxie des systèmes stellaires susceptibles d'abriter des émetteurs radio. Pour cela, les radiotélescopes Green Bank et Parkes ont recueilli les données radio de 1327 étoiles. Selon les calculs de ces chercheurs britanniques, les étoiles qui se trouvent en arrière-plan peuvent aussi être des cibles. Cela signifie qu'environ 280 000 étoiles supplémentaires peuvent être candidates. Selon eux, moins de 0,04% des systèmes stellaires ont le potentiel d'héberger des civilisations avancées avec une technologie radio équivalente ou plus avancée que les humains du XXIe siècle.